Sud Radio, ça roule.
Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver en ce dimanche soir, fin de week-end évidemment, ça roule 18h-19h avec Pierre Chasseret. Bonjour Pierre.
Et comment tu vas, ma Lolo ?
Elle va bien, elle va très très bien, c'est le printemps,
ça roule.
On est bien, ça roule, et ça roule avec vous. Pourquoi ? Parce que le 0826-300-300 attend vos appels sur les sujets que l'on va vous proposer dans quelques minutes. On va étudier d'ailleurs, on va décrire une étude hein, sur les jeunes au volant. Et on a de jolies surprises sur le rapport des jeunes et avec leur voiture, avec la sensation, la notion de mobilité.
Oui, parce qu'on aurait tendance toujours à nous dire que les jeunes ne veulent plus de voiture. Eh bien, Laurence, non, c'est pas vrai. La voiture, c'est toujours l'instrument de liberté par excellence. Il ne faut pas uniquement regarder la population du jeune urbain avec les parents qui habitent à 2 km. Non, c'est pas que ça. Et moi, tu sais pourquoi je voulais une voiture hein, quand j'étais jeune ? Ben, c'est parce qu'en fait, j'ai tout de suite compris que quand tu voulais amener une copine en week-end, c'était quand même plus sympa de lui dire « voilà, j'ai une voiture » que de lui dire « si tu veux, on va faire du stop ». C'est pas très pratique.
Et puis on va décrire aussi cette étude qui nous met face à cette jeune génération mobile et hyper connectée face aux risques routiers. Et là, il y a pas mal de surprises. Vous le savez, vous avez la parole et en ces temps juste avant la présidentielle, eh bien, venez échanger avec Pierre Chasseret qui met dans ces cas-là sa casquette de 40 millions d'automobilistes. Et Pierre qui répond à toutes vos questions, mais surtout qui échange avec vous pour ou contre des sujets de la politique routière. Voilà,
c'est le moment. L'ADN, c'est ça. C'est qu'en fait, j'ai la chance de diriger l'association 40 millions d'automobilistes et évidemment, on est le référent par excellence des pouvoirs publics et des hommes et femmes politiques que je croise beaucoup. Mais pour ça et pour être le meilleur porte-parole possible, il faut vous entendre, il faut vous écouter. Et puis, quelquefois, il faut corriger parce que, vu que c'est mon métier, il y a deux, trois choses sur lesquelles je peux vous éclairer. Et puis, quelquefois, c'est à vous de me corriger parce que peut-être que je suis à côté de la plaque, à côté de ma pompe,
et puis
station service.
Et puis surtout, vous avez peut-être d'autres idées et puis des idées à proposer au président futur ou présidente future.
Bien sûr, moi je suis tellement noyé dans mon quotidien que j'ai plus d'idées. Les idées, c'est vous.
Vrai.
Voilà. Non, mais j'en ai,
mais c'est bien d'échanger.
Mais ça parle pas toujours de voiture.
0826 300 300. Et puis on va vous proposer de nous rejoindre dès maintenant pour le grand sujet de cette fin de journée. Pour ou contre, ou tout du moins, les radars de feu rouges sont-ils,
efficaces ou pas en termes de sécurité routière ?
Simplement.
Eh oui, parce que j'ai creusé, j'ai regardé, parce qu'on en parle jamais de ces radars, parce qu'on part toujours du principe que s'arrêter au feu, c'est normal. Oui, d'accord, bien sûr que c'est normal. Loin de nous l'idée de dire qu'il faut griller les feux. Arrêtez-vous à tous les feux, y compris quand c'est orange, d'ailleurs, c'est la réglementation. Sauf si vous êtes précédé par un véhicule qui ne peut pas s'arrêter.
Genre un pompier ou...
Non, ou même si tu vois dans ton rétro que l'autre derrière ne va pas s'arrêter, il vaut mieux passer à l'orange.
Que se prendre un coup dans le...
Popotin.
Ou...
dans le pare-choc arrière.
Allez, on en parle avec vous, on vous attend tout de suite. Pour ou contre les radars de feux rouges, sont-ils nécessaires ? Est-ce qu'ils servent à quelque chose ? 0826-300-300.
Sud Radio, ça roule.
Alors, avant de savoir si effectivement ils sont indispensables, pas indispensables, est-ce qu'ils servent à quelque chose ou pas, ces radars de feu rouge, Pierre, je crois que c'est vraiment utile de remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Les feux rouges, il y a des radars, c'est pas si vieux que ça, en fait. Hein.
Non, c'est pas si vieux que ça. Il faut savoir qu'ils sont arrivés depuis maintenant une grosse dizaine d'années. Et ce type de radars, quand on les regarde bien, ils ont poussé sur le territoire de manière exponentielle, mais en même temps, le nombre de flashs a été réduit d'année en année. Donc c'était plutôt positif dans un premier temps. On pourrait même se dire, dans ces cas-là, que finalement, avec un nombre de flashs qui décroît, peut-être que c'est positif pour la sécurité. Tiens, quelle impression tu en as, toi, des radars feux rouges, quand tu les vois ? Donne-moi
déjà,
ton point de vue. Qu'est-ce que tu en penses ?
Très honnête, j'en ai jamais vu. Alors qu'on m'a toujours
c'est
dit, ça se repère.
Ah oui, ça se repère, parce que... Alors, comment il est positionné ? Il y a un mât positionné à peu près 50 mètres avant le feu, sur la droite de la route systématiquement, qui va filmer la plaque arrière de votre véhicule. Quand vous passez les roues avant et roues arrière au feu rouge, je précise bien, c'est roues avant et arrière. Ce n'est pas roues avant à l'orange et roues arrière au rouge. Là, il ne se déclenche pas. Si vous passez au rouge... Non, mais c'est important.
Oui, c'est important, mais on ne va pas jouer à ça. Ça
non,
va
parce qu'il y a beaucoup d'automobilistes qui tentent de contester en disant « Non, il était orange quand je suis passé à l'avant. » En disant ça, vous dites tout simplement que vous êtes coupable et responsable. Donc, vous ne pouvez plus contester l'infraction.
Ah.
Vous venez au contraire de signer votre amende par excellence. Donc, en fait, il faut passer les roues avant et arrière au feu rouge. Et là, la caméra va se déclencher, prendre une photo de la plaque arrière de votre véhicule, avec une petite limite à tout cela, comme nous le diraient nos avocats, c'est qu'encore une fois, on ne s'attelle pas à flasher celui qui conduit, mais uniquement, c'est pas celui qui est auto-volant qui intéresse, c'est la plaque d'immatriculation, parce que c'est ce qui rentre les sous.
Oui, mais alors du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne à laquelle appartient la voiture, détenteur de la carte grise, va recevoir le PV.
Exactement.
Et là, on est lourd, 4 points, 135 euros.
Exactement, et ça commence à faire très mal. Tu sais, Laurence, les radars feux rouges, la problématique, c'est quoi? 2009, les radars feux rouges apparaissent en France. 118 radars feux rouges sur le territoire. Et là, aujourd'hui, allez, devine combien? 744 radars feux rouges. On a multiplié le chiffre. Par contre, sur les premières années, on est vite monté. On est passé, alors avec quelques radars, on était à 17 000 flashs annuels. On est monté jusqu'à quasiment 700 000 flashs annuels. Là, on est en 2012. C'est le top du radar feux rouges.
10 ans plus tard?
10 ans plus tard, on est à 353 000. On a divisé par deux le nombre de flashs.
C'est bien. Ça veut dire que les gens ont quand même pris conscience de l'importance de la sécurité de s'arrêter au feu rouge.
Oui, mais... Oui, mais. T'aimes bien quand je te dis oui, mais.
Ouais.
Eh ben, je vais te dire oui, mais. Tu sais pourquoi? Parce que la difficulté de ces radars feux rouges, tu sais comment les reconnaître si tu vois pas le dispositif? Tu regardes par terre. Systématiquement, avant les radars feux rouges, on observe des grosses, grosses traces de freinage. C'est-à-dire que tu as des véhicules qui pilent parce que ça fait peur. Ce radar feux rouge, il fait tellement peur que dans certains pays, on les a interdits. Alors, je t'emmène. Je sais que t'es une grande américaine par excellence.
Dans mes rêves.
Est-ce que tu viens avec moi en Californie?
Ah oui, ça par contre, oui, je veux bien.
Bon, on va aller en Californie. La Californie a interdit les radars feux rouges parce qu'ils ont lancé une étude, après avoir constaté ça, des grosses traces de freins devant les radars feux rouges. Ils ont constaté une augmentation, en moyenne, de 40% du nombre d'accidents.
Au niveau du feu.
Avec même des pics à 52% d'augmentation du nombre d'accidents.
Mais Pierre Chasseret, 40 millions d'automobilistes et Sud Radio dans sa roule, je sens que ceux qui sont en train de nous écouter au volant sont pour certains en train d'hurler en disant « Il est où le problème ? Un feu rouge, on doit s'arrêter !»
Mais moi je pense pareil. Je pense que celui qui grille volontairement un feu, il faut qu'il rencontre les forces de l'ordre et qu'on lui prenne ses 135 euros et ses 4 points. Parce que forcément, s'il y a un sujet qu'on ne peut pas contester, c'est l'arrêt au feu tricolore. Évidemment, le problème, c'est qu'il génère tellement de peur que, tu sais, tu as toujours un aspect bénéfice-risque. Le bénéfice, on a compris, il y a deux fois moins de flash. Ok, le risque, c'est peut-être plus d'accidents. Tiens, c'est le cas d'un élu à Linas et Montlhéry.
On a Bruno qui nous attend au standard.
Linas, Montlhéry, quand le radar feu rouge a été installé dans les premiers mois, eh bien, le maire dénonçait ces radars feu rouge parce qu'il constatait une augmentation du nombre d'accidents.
Oui, mais alors là, moi, connaissant bien le secteur, je vais mettre du holà. Linas Montlhéry, c'est sur la Nationale 20. C'est à ce moment-là, ça descend très très fort et
exactement,
ça remonte après pour aller vers Arpajon. Mmh. Et je peux te dire que sur cette Nationale 20...
Il faut respecter.
Et oui, parce que c'était quand même une espèce d'autoroute de la mort. Enfin, c'était pas une autoroute, hein, mais c'était un circuit de vitesse.
Mais c'est une évidence.
Et il a fallu faire des choses comme ça.
Mais la question que je pose ce soir à tous ceux qui nous écoutent, c'est est-ce que pour vous, le radar feu rouge a un rapport bénéfice-risque en faveur de ce radar, ou est-ce que le risque d'accident, parce qu'il génère du stress, est plus fort que le bénéfice?
Allez, Bruno est avec nous. Il est patiente joliment au standard de Sud Radio, 0826-300-300. Salut Bruno!
Oui, bonsoir à tous les deux.
Bonsoir. Alors vous, vous habitez où déjà?
À Béziers.
À Béziers. Que pensez-vous alors, les radars feux rouges, utiles, pas utiles?
Moi, je suis plutôt pour les radars feux rouges. Je suis d'une manière générale contre les radars sur les routes et les autoroutes, ouais. Parce que j'estime que rouler avec une voiture moderne, avec pas ou peu de circulation sur l'autoroute, par exemple, à 150, je pense qu'on n'est pas dangereux.
S'il n'y a pas de problème, non. S'il y en a un, la distance de freinage sera plus longue, vous en avez conscience.
Oui, mais j'ai précisé avec pas ou peu de circulation.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ouais. Parce que sur l'autoroute, il y a quand même un facteur, c'est la réaction. Il y a quand même une réaction qui est un peu plus importante sur l'autoroute que qu'en ville. On a peu de chance sur l'autoroute d'avoir une mamie qui traverse avec son cabas ou une maman avec sa poussette, vous voyez. Donc, s'il n'y a pas ou peu de circulation, rouler avec une voiture correcte à 150 km/h, je pense qu'on n'est pas dangereux. En revanche, la capacité de réaction en centre-ville, ville, elle est nulle, ou quasiment nulle. Là, par contre, ça se croise dans tous les sens, même les piétons, ça aussi, ce serait peut-être un sujet, brûlent aussi le feu rouge bien souvent, hein, ils se croient tout permis et ils traversent alors que c'est rouge pour eux et vert pour les voitures, mais voilà. Mais raison de plus, justement, pour faire plus attention, parce qu'effectivement, je trouve qu'en centre-ville, c'est beaucoup plus dangereux de brûler un feu quand le feu passe rouge pour une voiture, il y a les piétons et les voitures dans l'autre sens qui ont déjà anticipé le vert pour eux. Vous voyez, donc... voilà, moi je suis plutôt favorable à ce sens pour les radars au feu rouge en ville.
Ben voilà Bruno, en tout cas on vous a bien écouté. Et puis vous, est-ce que comme Bruno, vous êtes plutôt pour les radars en ville? On va en reparler hein, tout ça dans quelques instants. Vous nous appelez au 0826 300. Est-ce que vous êtes contre? Oui mon Pierre, mais en 20 secondes. Hein, mon loup.
Mais en quelques secondes, je viens de faire une petite division pour savoir au niveau des radars feu rouge s'il y avait encore des gens qui y passaient, pour voir s'il est vraiment dissuasif. En moyenne, en France, un radar feu rouge constate 470 passages au rouge par an, c'est-à-dire plus d'une fois par jour. Alors je ne sais pas s'il est véritablement si efficace que ça, parce que malheureusement on passe quand même.
Oui mais enfin, tu n'as pas non plus des radars feux rouges sur tous les feux rouges de France. Et là, ton chiffre, c'est sur tous les feux rouges de France.
Non. C'est le nombre de flashs constatés sur les radars feux rouges. Ça veut dire que malgré le radar... on passe encore. Donc je me demande s'il n'y a pas peut-être d'autres choses à imaginer que simple radar, qui fait stresser aussi pas mal d'automobilistes.
0826 300 300, venez comme Bruno l'a fait. Merci Bruno, très très belle fin de week-end du côté de Béziers. Venez nous rejoindre, utile ou pas utile les radars de feu rouge. C'est sur Ça Roule, Sud Radio, ce soir avec vous.
Sud Radio Sarroule, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et nous continuons cette fin de journée de parler bien sûr des radars feux rouges. Sont-ils utiles ou pas utiles? On en parle avec Pierre évidemment, qui a mis sa grosse casquette de 40 millions d'automobilistes, et avec vous au 0826 300 300. Je voudrais qu'on revienne sur ce que tu disais tout à l'heure, sur ce calcul que tu as fait. Parce que je trouve ça peut-être, pour être très honnête avec toi et pour jouer l'avocat du diable, et tu sais que j'adore ça, un peu facile de dire que peut-être ça sert à rien. Moi j'avoue, moi-même, avoir eu des moments un peu des fois un peu trop light au niveau de la sécurité routière, depuis que je sais que les radars feux rouges existent, je ne passe même plus un feu orange.
Ouais, sauf que quand je regarde et que je constate un petit peu le nombre de flashs, je vois que ça baisse plus ces dernières années, ça baisse plus du tout. On constate approximativement toujours le même nombre de flashs sur les radars feux rouges, donc je me dis mince, ça veut dire qu'on passe encore, et c'est un constat d'échec. C'est un constat d'échec quand
oui
je vois que... Quand
ça peut être dû simplement à ces gens qui, quoi que tu fasses en termes de législation et de punition, ne feront rien.
Alors, tu as raison.
Tu vois, ça peut être dû à une partie de la population, tu mais pas
raison.
À l'ensemble.
Mais moi, il y a juste une chose qui m'embête là-dedans. Ce qui m'embête, c'est le bénéfice-risque. Vraiment, c'est quand tu mets en place une mesure de sécurité routière, tu sais qu'il y a un rapport bénéfice-risque. Prenons les radars, par exemple, les simples radars. Le bénéfice, on le connaît. On sait que ça va limiter certains excès de vitesse, évidemment. Et le risque, c'est de se mettre à flasher 75%, 80% des Français. Donc, le risque est supérieur au bénéfice, dont il faut revoir légèrement ce système de la radarothérapie à la française. Mmh. Le problème de ce radar feu rouge, c'est que d'autres pays, et pas des moindres, les États-Unis, ont supprimé les radars feux rouges parce qu'ils ont jugé que le risque qui était généré par ce radar feux rouge qui crée des accidents dus à des freinages intempestifs était supérieur au risque de s'il n'y en avait pas. C'est ça la vraie question. C'est pas de savoir si le fait de passer au rouge est dangereux ou pas. On sait tous qu'il ne faut pas le faire. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait les forces de l'ordre qui, de temps à autre, se mettent à des intersections pour prendre ceux qui grillent les feux. C'est une évidence. Mais le principe même du radar est stressant. C'est ça qui peut être générateur d'accidents.
Jean-Pierre est avec nous au standard de Sud Radio 0826 300 300. Salut Jean-Pierre.
Bonjour Manolo, et bonjour Pierre.
Salut,
j'ai entendu ce matin que Pierre, il n'est pas sa vignette critère, c'est pas sérieux.
Je suis passé à quoi moi?
T'avais pas ta vignette critère, mais c'est normal,
ouais,
parce que
vrai.
Pierre n'habite pas en Île-de-France ou dans une zone qui est touchée pour l'instant.
Voilà, voilà. Tiens, tu me suis sur tous les postes de radio et de télévision.
Et de télévision. Alors Jean-Pierre, vous, les radars feux rouges, utiles ou pas utiles selon vous?
Utile pour nous piquer du pognon. Moi, ce que je préconise à un grand labo de pharmacie, c'est de faire une pommelle anesthésiante, parce qu'on commence à avoir le pion sensible.
Ouais, mais alors Jean-Pierre, faut pas confondre, parce que il y a le radar en soi, et honnêtement, on le sait tous, c'est une machine à cash, évidemment, quand on voit que certains radars ont été privatisés, avec des voitures confiées à des sociétés privées, faut pas nous prendre non plus pour des jambons, mais... Là, on parle du radar.
Pourtant, on est des gens sympas.
Nous, on est des gens bien. Mais tu sais, dans la vie, il y a les gens bien et les gens bons.
Comme disait Nougaro.
Alors Jean-Pierre, moi ce que je voudrais savoir, c'est, on est tous d'accord que le fait de griller un feu tricolore, c'est hyper dangereux, vous êtes d'accord avec moi là-dessus ?
Bien sûr, bien sûr.
Donc on ne peut pas parler de raquette quand on prend quelqu'un qui a grillé un feu, on est bien d'accord ?
Ah ouais.
Oui, mais bah quand même, c'est désagréable, quoi.
Ah bah d'accord, mais enfin...
Ouais, mais moi, ce qui me gêne dans ce radar feu rouge, c'est, si, je ne sais pas pour vous, mais moi, pas spécialement. Alors, je fais extrêmement gaffe, parce que j'ai toujours peur que ça passe à l'orange, quand même. C'est vrai que c'est générateur de stress, mais je ne me mets pas à piler comme un dingue. Ça, c'est une évidence. Par contre... On le constate systématiquement sur toutes les routes. Alors j'ai des photos, Lolo, je pourrais te les montrer. C'est de la folie. C'est-à-dire qu'on a systématiquement, à chaque niveau de radar feu rouge, des traces de freinage sur des cinquantaines de mètres.
Tu sais pourquoi je rigole ?
J'ai dit une bêtise.
Non, pas du tout. C'est parce que d'un seul coup, parce que je me disais, tous les radars qu'on a en France, normalement, il y a un panneau qui les annonce.
Eh bien, pas cela.
Pas cela. Sauf que du coup, tes marques au sol te préannonce qu'il y a un radar feu rouge.
Et d'ailleurs, pourquoi
ils ne sont pas annoncés comme tous les autres radars ?
Eh bien, parce que la sécurité routière me répondait jusqu'à présent, parce que je leur dis systématiquement ça. Je dis, annoncez-les, comme ça, il n'y aura pas l'effet de surprise sur celui qui ne connaît pas, il ne sera pas stressé par un mât en l'air, il se demande si c'est de la vitesse, du feu rouge, il ne sait pas trop ce que c'est. Annonçons ce type de radar. Le but, c'est que les gens s'arrêtent. C'est que les gens s'arrêtent sans accident. Donc si c'est ça l'objectif, annonçons-les. Ils me répondent toujours, oui mais s'arrêter au feu, c'est la loi. Bah oui, on sait, mais enfin bon, respecter la limitation de vitesse aussi, et c'est pas pour autant qu'on le fait.
Ouais.
Donc moi ce que je veux, c'est faire en sorte que les gens s'arrêtent. Ce qui m'intéresse, c'est pas le législatif, c'est pas le nombre de PV qu'on envoie, ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y ait pas d'accident. En fait, l'association qui a le plus d'intérêt à ce qu'il y ait zéro accident sur les routes, eh bien, c'est 40 millions d'automobilistes. Pour obtenir des choses du gouvernement, il faut être en position de force. Plus le nombre d'accidents baisse, plus je suis tranquille et serein pour aller voir les ministres et leur demander des avancées. Et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Et beaucoup nous disent, oui, 40 millions d'automobilistes, vous voulez des accidents. Bah oui, bien sûr. Et puis quoi encore ?
Après,
personne n'est pour les accidents. C'est quoi ces débilités ?
Non, mais ça paraît évident. Mais enfin, Jean-Pierre, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais, et puis toi, Pierre aussi, c'est que, quoi qu'il en soit, on est toujours en train de râler sur le fait qu'on nous impose quelque chose qui devrait ne pas être un poser parce qu'on devrait être de bons élèves, entre guillemets. C'est-à-dire
non, mais c'est le même problème partout dans le monde. Et ça ne touche pas que des chauffards. En fait, si tu veux, pour faire simple, celui qui a décidé de faire n'importe quoi sur la route, il est équipé dans sa bagnole. Il a tout ce qu'il lui faut de toute façon pour respecter uniquement les endroits qui seront
sensibles. Tu parles des aides à domicile qui commencent comme un renard, mais qui sont un peu plus américains dans le désert, là ?
Voilà, de ce type-là. Mais c'est les effets pervers de très bonnes technologies, d'ailleurs.
Parce que, par exemple, sur Waze, on va dire les choses, hein,
directement.
Oui, mais on n'a pas le radar feu rouge. Ça, moi, j'en ai encore jamais vu.
Coyote le fait. Non, tu les as, bien sûr, tu les as.
Donc, je ne passe jamais avec des radars feu rouge.
Mais tu les as, mais j'ai envie de te dire, au-delà de ça, il n'y a même pas besoin d'application connectée. Celui qui a décidé de faire n'importe quoi, il ne se fait pas choper. Tiens, prends l'exemple d'un GoFast. Je ne sais pas s'il y en a un qui nous écoute en ce moment en remontant de l'Espagne. En tout cas, lui... Il se fait pas choper. Parce qu'en fait, il a tout prévu.
Vite, en fait.
Celui qui va se faire choper, c'est toi et moi. Un jour, on fait pas gaffe et puis on se fait prendre. Alors, sur feu tricolore, il y a une évidence. Mais je vais te raconter un truc. Tiens, je vais faire amende honorable. Ça m'est arrivé une fois.
Alors, c'était quelques années. Qui nous attend aussi au sein.
En 2013, si je dis pas de bêtises. Je suis sur la route et il y a un espèce de grand marronnier qui cache un feu. Et je suis avec ma collègue au volant. On discute et au bout d'un moment, je m'en suis même pas rendu compte. Et elle me dit, Pierre, tu sais que t'es passé au feu ? Et je lui dis, je ne l'ai pas vu. Et on a fait demi-tour. Et le feu était complètement caché par les marronniers. Mmh. Donc, il n'y avait que le petit rappel de feu en bas qui me permettait de le voir, mais je n'ai pas vu le feu.
Non, mais ça, c'est arrivé à tout le monde, mais là, c'est un cas à part. Généralement, les feux, on les voit bien quand Pierre, on ne va pas trouver
non,
des excuses.
Mais c'est une évidence. Je ne cherche pas d'excuses. J'essaie juste d'expliquer que de temps à autre, ça peut arriver de faire une bêtise. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Mais par contre, je privilégie vraiment la présence des forces de l'ordre, parce que les forces de l'ordre, si tu veux, ce n'est pas stressant. Tu ne sais pas qui sont là. Donc tu
et puis, elles ont
le
toujours le même
point.
Effet. Hein. Moi, je sais quand je les vois sur le bord de la route, je suis toujours un peu comme quand j'avais 20 ans. On a Jean-Pierre, restez avec nous. Jean-François nous appelle également. Je crois qu'il nous appelle deux. C'est gentil, Jean-Pierre. Je vous love. Salut Jean-François.
Oui, bonjour tout le monde.
Salut Jeff.
Jean-François de Pau.
De Pau, oui. Voilà.
Alors vous, les radars feux rouges, utiles ou pas utiles ?
Non. Ça sert à quoi ? Qu'à stresser encore plus les gens. Ouais. Bon, si on a appris à conduire comme il faut,
on s'arrête.
Avant un feu, on ralentit,
voilà.
Au vert, on n'accélère pas, on passe. Ce que je voudrais dire à tous les auditeurs, j'ai appris ça en rattrapant des points, c'est que si on est coincé dans un feu vert et qu'il passe au rouge alors que la file devant démarre, faut rester arrêté. Il ne faut pas redémarrer parce que le radar, il a deux flashs.
Exactement.
Et si on ne passe pas au second, on n'est pas pris. Ça, ouais, c'est très important. Tant pis si on gêne l'intersection, on se fait klaxonner, on se fait siffler, mais les points vont rester sur le permis.
Alors, j'en rajoute une, et c'est très complexe.
Réexpliquez bien, parce que ce que vient d'apporter.
Alors, grosso modo, vous êtes dans une zone de bouchons, vous êtes passé, le feu était vert, on est en situation de radar de feu, vous êtes passé, vous êtes engagé, seulement, entre-temps, il repasse au rouge. Si vous redémarrez, vous allez être considéré par le radar comme quelqu'un qui grille le feu. Donc c'est là où ça crée aussi des situations qui peuvent être stressantes et pas très justes. Autre cas, vous avez une ambulance derrière ou un service de secours qui fait du pimpon. Bon, bah derrière, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez avoir la tentation de passer.
Bah oui,
et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, s'il y a en ce moment des conducteurs d'ambulance qui nous écoutent, etc., ils le savent, parce que ça, c'est leur stress. Lorsqu'il y a un radar de feu, ils savent très bien qu'ils ne vont pas pouvoir passer parce que personne n'ose s'engager. Et que la contestation est tellement complexe, parce qu'il faut pouvoir prouver qu'au même moment, une voiture engagée était une ambulance avec le gyro qui était allumé. Bref, c'est extrêmement complexe. Ouais. Et je pense que, finalement, Jeff nous a tout dit. Le feu rouge, tout le monde sait qu'il faut s'arrêter et qu'on peut créer un accident mortel, même pour nous, si on est percuté. Il n'y a pas un seul, pardonnez-moi l'expression, mais il n'y a pas un seul couillon qui dit « moi je m'amuse à griller les feux parce que je trouve ça sympa ». Ça n'existe pas. Donc, la seule question qui se pose, c'est est-ce qu'on a besoin de ce type de radar qui sont, pour une partie des Français, stressants au volant. Stressants, voilà.
Bon, en tout cas, merci Jean-François d'avoir apporté cette...
Voilà.
Info supplémentaire.
Jean-Pierre, vous êtes d'où?
Non, Jean-François de Pau et Jean-Pierre de Montpellier.
Jean-Pierre de Montpellier, bon. D'accord.
Mmh. Voilà.
Toujours de Montpellier, et je vous attends pour faire un graillou au Grand Buffet à toute l'équipe. Là.
Ah oui,
mais
c'est vrai.
Je ne peux pas me dire deux fois.
Hein. À Narbonne, le Grand Buffet.
Alors moi, je vous donne déjà mes dates. Hein, ça va être en avril, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, la deuxième semaine de vacances scolaires de la zone B, je serai parti. Et ensuite, pour cet été, on va se voir tout l'été.
Bon, mais on ira aussi chez l'ami Goujon, parce qu'il y a Narbonne, mais il y a aussi.
Je peux en rajouter, moi ?
Ouais.
Et Sud Radio, il faut qu'il vienne au Grand Prix de Pau.
On a un
circuit sympa.
On adorerait.
Avec des pilotes qui méritent d'être connus.
Mais carrément, mais tellement d'accord avec vous.
Et c'est très joli, le boulevard des Pyrénées à Pau et le circuit automobile.
Mais la ville est sublime.
Puis un petit message comme ça en passant. Un gros coucou au circuit d'Albi qui connaît des grosses difficultés en ce moment. Vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire.
Bon.
Voilà, allez, une petite pensée.
On va y aller. Bah, en tout cas, merci de ces superbes invitations du côté de Montpellier ou du côté de Pau. Nous allons de ce pas faire passer vos invitations auprès de notre direction. On vous embrasse tous les deux, Jean-Pierre et Jean-François.
On va se promener, nous.
Oh, j'adore. Ouais, mais c'est ça, la vie. C'est rencontrer, se promener, déguster, apprécier. Tiens, d'ailleurs, on va peut-être un peu mieux apprécier la façon dont les jeunes se trouvent au volant. C'est une génération mobile plutôt hyper connectée, vous le savez. Face aux risques routiers d'aujourd'hui, on en parle en détail suite à une étude menée par la Fondation Vinci.
Sud Radio Sarroul, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et nous sommes ensemble, évidemment, vous le savez, jusqu'à 19h. Vous avez pour vous l'occasion, bien sûr, de pouvoir échanger avec Pierre avant la fin de notre émission. Et puis voir avec lui, hein, pourquoi pas, d'ailleurs, si vous pouvez demain rencontrer le futur président ou future présidente de la République. Qu'aimeriez-vous lui dire en termes de politique routière, de choses à changer sur nos routes de France? Tout de suite, eh bien, on va parler des jeunes au volant. Alors, vous êtes jeune, hein, vous avez peut-être entre 18, 24, 30 ans maximum. Appelez-nous au 0826 300 300. Comment considérez-vous la voiture? Comment considérez-vous le volant? Vous qui êtes super hyper connecté, comment êtes-vous face aux risques routiers? Eh bien, on va en parler avec Bernadette Moreau, qui est déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroutes. Bonjour Madame Moreau.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Écoutez, très bien, merci beaucoup.
Jolie voix, bien fraîche en ce dimanche soir. Alors, Bernadette, vous avez fait une super étude. Moi, je suis restée, j'ai pris le temps de la regarder, de l'écouter sur ces jeunes, et puis tout le moins de regarder ce que vous faisiez, parce que c'est vrai que la génération d'aujourd'hui, Pierre, n'est plus la même que nous quand nous avions leur âge. Comment les jeunes se situent au niveau de leur rapport au volant ?
En fait, c'est une étude qui a été financée par la Fondation Vinci Autoroutes, mais réalisée sous la direction de David Le Breton, qui est un professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg. Mmh. Et cette étude, elle avait pour objet de dresser le portrait, justement, de cette génération de 18 à 25 ans qui prend le volant. Et ce qu'on qu'on constate, c'est que c'est une génération hyper connectée, comme vous venez de le dire, soucieuse de son autonomie et de la maîtrise de son temps. La part du temps a beaucoup d'importance, la gestion du temps. Mmh. Et ça l'amène, cette génération, à un certain nombre de contraintes qu'elle va chercher sans cesse à faire le compromis entre ces injonctions de la vie sociale, de la vie hyper connectée, ouais, avec la conduite sûre.
Ouais, smartphone au volant.
C'est souvent au détriment de la conduite sûre.
C'est-à-dire que pour les générations, j'ai envie de dire même un peu plus anciennes que moi j'ai 42 ans, j'ai connu quand même l'éclosion du smartphone depuis que je suis jeune au volant, donc c'est plutôt pour la génération d'avant moi encore, il n'y avait pas ces smartphones. Aujourd'hui, un jeune, c'est avant tout un smartphone, on est d'accord.
Alors tout à fait, c'est-à-dire que en fait le smartphone fait vraiment partie de lui-même.
C'est le prolongement du bras.
Ouais. C'est vraiment son outil de connexion, bien de sûr, relation avec les autres, et il l'utilise tout le temps, encore plus que les adultes, enfin les adultes encore plus âgés. Ouais. Mais c'est du coup il ne n'arrive pas à s'en séparer, même au volant, et quand il faut qu'il qu'il prenne une décision entre aller regarder des notifications, répondre au téléphone, répondre à un SMS, plutôt que regarder la route, il va privilégier la route.
Alors j'avais appris un truc assez énorme à l'époque avec deux jeunes qui montaient des petites cabines pour dormir dans les stations d'autoroute. Ils avaient ce projet-là pour lutter contre la somnolence au volant. Ils m'avaient appris quelque chose d'assez énorme, c'est que plus on avance en âge et plus on a conscience de notre état de fatigue, alors que lorsqu'on est jeune, on a toujours l'impression qu'on est au top, pas fatigué, qu'on a une forme olympique, et en fait, on ne ressent juste pas directement l'effet de la fatigue qui est là. Donc, les jeunes sont aussi sujets que nous,
oui,
à la somnolence.
Mais tu as aussi une histoire même biologique, pardon. Oui, Bernadette.
Oui, tout à fait. Ben, c'est exactement ce que vous alliez dire, je pense. Oui. Effectivement, les jeunes n'ont pas conscience de l'impact du manque de sommeil sur leur conduite. Et ce manque de sommeil, il a une particularité sur cette tranche d'âge adolescents, jeunes adultes. Mmh. C'est que les scientifiques parlent de jet lag social, c'est-à-dire que ce sont des jeunes qui normalement vont avoir sommeil plus tard que le reste de la population, et ils vont devoir physiologiquement se réveiller plus tard. Simplement, la vie sociale ne leur permet pas, et donc ça veut dire qu'ils sont constamment en jet lag social, avec les conséquences que ça peut avoir en termes de prise de risque au volant.
Clair.
D'autant plus qu'ils ne vont pas prendre la peine de s'arrêter quand ils sont fatigués.
Ben c'est parce que quand on est jeune, et c'est normal, j'imagine, toujours plus fort que tout le monde. Donc on ne prend pas ce risque, on ne l'a pas en toute conscience. Restez avec nous, Bernadette, qu'on a Daniel qui nous appelle. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes dans la région parisienne, c'est ça?
C'est ça, oui, je suis chirurgien à Paris.
Chirurgien à Paris. Alors vous, les jeunes au volant, vous avez constaté quoi?
Alors, effectivement, bon, je vous écoutais. Moi, j'aime pas trop qu'on fasse une discrimination des jeunes. On leur fait déjà porter pas mal de choses. Moi, j'ai 70 ans, donc vous voyez, c'est pas. Je prends le revers un petit peu de dire les vieux, ils ont l'expérience, machin. Je trouve que les jeunes, il faut leur faire les soulager déjà par rapport au fait de les cibler comme des comportements. Voilà. Je pense que le comportement, il est assez général. Et
qu'est-ce que j'aime bien ce discours?
Il y a des personnes âgées qui ont des comportements largement aussi dangereux.
Mais là, en l'occurrence, Daniel, excusez-moi de vous couper la parole, c'est juste que l'étude est super intéressante. Alors, elle ne stigmatise pas le côté dangereux.
Absolument.
Des jeunes. Hein.
C'est que chacun a ses particularités.
Non, puis, vous allez voir, il y a plein de choses qui ont été étudiées, comme le fait que pour eux, la voiture, encore aujourd'hui, malgré le fait qu'on nous dise que la voiture, il faut arrêter, pour les jeunes, ça reste un outil de liberté. Vous voyez, on n'est pas que sur la stigmatisation.
Non, mais j'entends. Daniel, ce que vous voulez dire, en fait...
C'était une petite remarque.
Le
fond du sujet, c'est pas ça.
Ouais.
Le fond, c'est qu'on est effectivement rentré dans une période d'immédiateté qu'on n'imagine même pas de ne pas répondre au téléphone. Il y a le cordon ombilical, on l'a coupé à la naissance, mais on en a recréé un autre numérique qui est catastrophique. C'est-à-dire que moi, hier, par expérience, ça m'est arrivé, j'avais une panne de batterie, j'avais pas de moyen de recharger, et ça a duré une heure. Et le reste du monde, j'étais complètement déconnecté. Et bien, la famille, les amis, soit s'inquiète, il y a un esprit de suspicion. Ça veut dire on est dans un système, et c'est ça, il faut, c'est un problème d'éducation. Il faut tout reprendre, et les jeunes, il faut les désensibiliser par rapport à ça.
Mais à coup pas, comme tout le monde. Voilà. Pareil, si. Moi, quand j'ai pas mon smartphone, quand ils se déconnectent, oui, je sais pas pour toi, Laurence, je suis pas alors, bien.
Moi,
je
au me sens volant, pas bien. Au volant, j'ai fait quelque chose. Maintenant, c'est que je le mets sur mon téléphone, j'ai la possibilité d'envoyer un message aux gens qui m'appellent en
c'est
disant
parfait,
voilà, je suis actuellement au volant, patati patata.
Au volant et rappelez-moi intérieurement. Ça, c'est,
ouais, je le fais assez souvent.
Démarche, et il faudrait que ça soit pratiquement qu'on le fasse tous. Parce que le fait d'utiliser l'écran pour continuer, parce que le fait de dire, de donner une semi-bonne conscience en disant bon, alors on va leur permettre de pouvoir décrocher avec le Bluetooth, le machin. Et qu'est-ce qu'on a dans la voiture? Les dernières bagnoles, et d'ailleurs les jeunes.
La mienne est comme ça.
Ils ont un écran. Ils ont un écran.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'ils ont un écran à la télé, bon, ça n'en parle pas. Ils ont l'écran vidéo, ils ont l'écran téléphone, et maintenant, ils ont l'écran dans la voiture.
Mais je suis
donc,
d'accord.
En réalité,
oui.
Voilà.
Daniel,
alors
Bernadette.
Si je peux me permettre.
C'est passionnant.
Cet auditeur a parlé effectivement de sensibilisation et d'éducation des jeunes. Et vraiment, l'idée, c'est absolument pas d'être discriminant, pas du tout. Mais c'est aussi d'apporter des informations à cette population-là pour qu'ils soient plus protégés, parce que c'est une population aussi qui est très, très victime d'accidents de la route, celle qui est la plus ciblée. Et donc, la Fondation Vinci Autoroute a décidé de lancer parallèlement à la sortie de cette étude, en s'appuyant sur les résultats de cette étude, une campagne digitale de sensibilisation pour inciter les jeunes à résister, exactement ce que vient dire l'auditeur, à résister à cet appel des notifications lorsqu'ils sont au volant. C'est une campagne qui s'appelle La Notif, avec des hashtags « Je te laisse en vue, tu me laisses en vie » et qui illustre tout à fait cette difficulté qu'a un jeune à résister à l'appel de ces notifications alors qu'il est au volant. Et on a fait cette campagne aussi de façon à ce que ce soit des jeunes qui parlent aux jeunes, donc absolument pas moralisatrice, sur un ton humoristique. Et j'invite bien sûr tous les auditeurs
Bernadette,
à aller regarder cette campagne.
Je vais juste dire que ça s'appelle comment, La Notif, N-O-T-I-F.
Oui, tout à fait.
Avec l'apostrophe, voilà, N-O-T-I-F, apostrophe.
J'ajoute un point.
Et c'est le youtubeur Théodore, donc un youtubeur qui est très très suivi par cette tranche d'âge, qui participe, qui est acteur dans cette campagne, et qui l'a relayé largement, donc les jeunes, probablement ça leur parlera d'aller regarder ce qu'a fait Théodore, en s'engageant pour plus de sécurité sur la route.
Alors déjà, j'ajoute deux points maintenant. Déjà, notre auditeur, notre cher chirurgien
Daniel
que je félicite pour son message, parce que moi non plus, moi aussi, j'ai horreur de stigmatiser. Et la génération smartphone, elle inclut aussi, regarde, on est dedans, Lolo, nous aussi. Hein.
Ouais, on est jeunes.
On en fait partie. Ouais,
encore un peu.
Oui, Jeanne Calment nous trouvait très jeunes, effectivement.
Non, mais je comprends ce que tu veux dire.
Mais voilà, Et puis le deuxième point que je voulais ajouter, c'est que dans chaque phénomène de société, en fait, on va dans les excès avant d'avoir une régulation. C'est-à-dire que dans un premier temps, il n'y a rien. Là, on est basculé sur un excès de connectivité. Je pense que cet excès va se corriger. Je pense même que nos plus jeunes aujourd'hui regardent Facebook. Tu vois, Facebook, comment c'est en train de décliner chez les plus jeunes. Je crois qu'au bout d'un moment, on va revenir à quelque chose d'assez modéré qui va se moduler. Ouais, Daniel, moi je sens les choses un petit peu comme ça. Parce que j'ai pas l'impression, je regarde mes enfants, vous voyez, mes enfants, ils ont 13 ans, 11 ans. Bon, à la maison, finalement, ils ont un usage de leur téléphone qui est extrêmement limité, et voire même de plus en plus limité. Les premiers jours, quand ils l'ont eu comme des dingues, et puis alors maintenant, le téléphone, il reste dans un coin.
Merci beaucoup, Daniel. Je sais que vous êtes en fin de week-end et que vous avez besoin de vous reposer avant de rattaquer votre semaine de chirurgien. Vous êtes chirurgien spécialisé ?
Oui, en cancérologie. Oui.
Oh,
donc
bravo.
Un héros pour moi.
Ouais, ouais. Bravo.
Oh non, vous savez. Si. On est chacun dans son métier.
Ouais, je vais vous expliquer un truc. Moi, dans mon métier, j'entends toujours des gens me dire que les radars, ça sauve des vies. À chaque fois, je dis non, un chirurgien, ça sauve des vies.
Voilà, voilà. C'est dans ce sens-là, c'est pas spécialement dû à votre spécialité, mais en tout cas, bravo aussi.
Mais Vinci, pour terminer, sous forme d'une parabole, ce que vient d'expliquer, c'est excellent. C'est excellent, parce que cette campagne, de la même façon qu'il y a eu des campagnes de sensibilisation pour les opiacés, les drogues, et ça, c'est vraiment, si on arrive à un système maintenant où on rentre dans sa voiture, le téléphone pratiquement se déconnecte, et qu'on a un message désormais, je suis en train de conduire.
Oui, alors, que, Daniel, je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est que les constructeurs maintenant, bah, tout est hyper connecté dans les voitures. C'est pour ça qu'elles ont aussi augmenté en termes de prix. Qu'il y a les fameux écrans dont vous parlez. Et que eux, les constructeurs, vous n'allez pas leur faire arrêter de faire ça. Et donc, comme.
Ah oui, bah, voilà.
Non, puis il y a des passagers. Les passagers, ils ont le droit d'être sur leur smartphone. On ne peut pas mettre des brouilleurs.
Voilà, c'est compliqué.
C'était une idée qui avait
allez,
été
continue,
avancée.
Mais on continue.
Malheureusement.
Bernadette,
merci. Maintenant, votre débat, et vous voyez, ça, c'est sauver des vies.
Merci, Daniel.
Merci beaucoup, Daniel.
Allez. Merci.
Merci. Au revoir. On va avoir Pierre aussi qui nous attend au standard.
Mais
je voudrais revenir avec vous, Bernadette, parce que là
oui.
on a oui un autre Pierre. On a parlé effectivement de voilà cette hyper connectivité. Mais David Le Breton, avec lequel vous avez fait cette grosse belle étude avec Vinci, la Fondation Vinci, a noté aussi par rapport à son étude que pour les jeunes, la voiture est un signe indispensable du fait de se sentir adulte. Et ça, c'est. Nous, moi, je l'avais vécu à 18 ans. Ouais. Et ça, c'est vraiment ressorti dans votre étude.
C'est libre.
Exactement, exactement. Et d'ailleurs, il a même dit, là, lors de la conférence débat qu'on a organisée la semaine dernière à ce sujet, il a même dit que lui-même en était étonné. Parce qu'il pensait que peut-être les choses avaient changé, qu'effectivement, il y a longtemps, le passage du permis était vraiment un rite de passage à l'âge adulte, mais c'est permanent, ça continue, et malgré le fait que, effectivement, dans certaines très grosses métropoles, notamment parisiennes, on passe plus tard son permis, il n'en reste pas moins que le fait d'avoir son permis, d'avoir sa voiture, de financer soi-même sa première voiture, sont des témoignages de ce passage de l'âge adulte auquel les jeunes sont très très attachés.
Alors, Bernadette,
parce que ça leur donne accès à l'autonomie.
Il y a notre réalisateur Maxime qui vient de me dire dans l'oreille quelque chose d'extrêmement intelligent. Alors c'est le cas, hein, Maxime est comme ça. Par rapport aux métropoles où on passe le permis beaucoup plus tard, il me dit oui, mais on devient adulte plus tard en métropole. Et sans doute que c'est pas complètement faux, à quelques exceptions près évidemment de vie et de vécu, mais en campagne, on est beaucoup plus mis face à une maturité.
Ouais, on travaillait plus jeune.
On travaille plus jeune, alors qu'effectivement, dans les grandes métropoles, on a tout à portée de main, les transports en commun, les choses comme ça, papa, maman, hyperprotection, sans doute. C'est pas une généralité, attention, mais bravo de cette intervention, Maxime, notre réalisateur. Pardon, Pierrot.
Non, j'ai plus rien à ajouter, moi c'est parfait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise,
Maxime, il va falloir venir au micro maintenant.
Je veux juste ajouter un petit peu d'essence à votre moulin. C'est quand même juste rappeler quand même que quand on se rend à Pôle emploi, enfin, ou à France Travail bientôt, je ne sais pas, la première question qu'on vous pose, c'est de savoir si vous avez votre permis ou pas. Donc le permis est évidemment une évidence dès qu'on rentre dans le marché du travail. Et rentrer sur le marché du travail, c'est aussi ça, être adulte. Alors on ne va pas stigmatiser, encore une fois.
Non.
On a beaucoup parlé de téléphone portable au volant. Et on sait tous, hein, tous ceux qui m'écoutent en ce moment, si on est parfaitement honnête, ça nous arrive de chatouiller le téléphone,
regarde,
y compris quand on roule.
Et tu as entendu par Pierre qui est patient. Restez avec nous, Bernadette. Hein. Au standard de Sud Radio 0826 300 300. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour. Bonjour, bonjour.
Salut copain.
Alors,
oui.
Il paraît que vous aussi, parce que le standard me dit que vous, ça vous est arrivé aussi de décrocher votre téléphone. Donc en fait, voilà, il n'y a pas une histoire d'âge là-dessus. Hein.
Bah, évidemment.
Oui, non, mais c'est vrai. Moi, j'ai 68 ans et il est vrai que ça m'arrive de décrocher. Et je sais que c'est pas bien, hein, c'est pas. Mais c'est vrai que on a toujours ce mécanisme-là d'avoir le téléphone à côté et puis quand on reçoit un appel de décrocher. Mais souvent je me sers du Bluetooth et en fait ce qui me stresse le plus, ce n'est pas le Bluetooth.
Votre femme.
C'est de voir les panneaux à 80 km/h. Et là. Je suis plus sur mon compteur et regarder la vitesse que de parler au téléphone.
Ouais,
quand j'ai le Bluetooth, bien sûr.
Allez, bim, une petite pastille pour Édouard Philippe, ça faisait longtemps. Non, mais ouais. Allez, on va se poser une question, nous tous, hein, y compris vous, Brigitte. Hein. On essaie d'être honnête.
De la Fondation Vinci Autoroute.
On essaie d'être honnête. Moi, je commence. Est-ce qu'il nous arrive encore de décrocher notre téléphone? Ouais. Ben, moi, je le dis oui. Oui, ça m'arrive.
Oui, oui.
Et oui, c'est pas bien parce que je vais poser une autre question. Est-ce qu'on s'est déjà au moins une fois fait une frayeur avec notre téléphone? Et moi, je vais vous répondre, bah oui, je m'en suis déjà fait.
Voilà. Alors après, pour être très honnête également, moi oui, mais parce que ma voiture maintenant étant hyper connectée, tout est branché, tout passe à l'intérieur de la voiture, je n'ai plus besoin de décrocher le téléphone, elle le fait pour moi. Bernadette, dans les grandes lignes aussi, hein, toujours revenons sur cette étude de la génération, les jeunes au volant mobile hyper connectés face aux risques routiers, toujours que vous avez fait avec le sociologue David Le Breton et la Fondation Vinci Autoroute. Il est quand même quelque chose qui est noté, c'est que les risques routiers se conjuguent encore malheureusement beaucoup au masculin dans cette étude.
Exactement. Ben ça, il suffit de regarder les chiffres de la sécurité routière, hein, les bilans chaque année du nombre d'accidents qui sont réalisés, et on voit qu'effectivement le risque routier est très majoritairement masculin.
Ah, c'est parce qu'on vous évite. non, mais c'est vrai. Mais toute catégorie d'âge, hein, toute catégorie d'âge confondue.
Tout à fait, toute catégorie d'âge, parce que l'usage de la voiture a été pendant très longtemps exclusivement masculin. C'est de moins en moins vrai, mais ça reste quand même une façon pour les hommes, peut-être, de montrer leur capacité à maîtriser la vitesse, à maîtriser.
Voilà. L'alcool au volant, c'est 100% homme quasiment. C'est un truc de dingue.
Alors ça, je modérerai un peu votre propos, parce que vous savez qu'on fait chaque année un baromètre de la conduite responsable avec la Fondation Vinci Autoroute.
Oui, ça monte aussi chez les femmes, je suis d'accord.
Et on voit que les jeunes femmes, c'est pas forcément une bonne chose, hein, c'est même pas du tout une bonne chose, mais les jeunes femmes ont tendance à rattraper un peu les jeunes hommes en termes de consommation d'alcool et de prise et ensuite de conduite avec
ce sont les jeunes
en ayant
femmes.
Bu de l'alcool.
Les femmes au-delà de 40 ans, non.
Ben, disons que, si vous voulez, c'est peut-être parce que c'est moins dans leurs habitudes, mais on sait aussi que en dehors même.
Sauf en cas de chagrin d'amour, on peut prendre le volant bourré. non, surtout pas.
Sur le parking.
Les jeunes femmes ont tendance à consommer plus d'alcool, ça se retrouve aussi lorsqu'elles sont au volant. C'est comme pour le téléphone et les smartphones. C'est un usage qui est même presque plus important chez les femmes que chez les jeunes.
C'est des pipelettes.
Évidemment.
Des pipelettes.
La femme est pipelette.
Bon, évidemment, je le dis quand même, parce que dans ce monde, il faut toujours préciser, je fais de l'humour.
Oui,
hein, on est bien d'accord.
Mais oui,
voilà.
Pierre, on vous connaît. Le mot de la fin, Bernadette Moreau, pour conclure notre sujet. On va rappeler que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux, c'est sorti depuis maintenant, mercredi, il y a quelques jours, la notif, N-O-T-I-F apostrophe, et c'est très bien fait, c'est en 52 secondes, avec le youtubeur Théodore et le comédien Swan Pag qu'on voit entre autres dans la série Scam. Ça dure
exactement
52 secondes et ça s'intitule le « Je te laisse en vue, tu me laisses en vie ». Voilà, pour contrecarrer le fait d'être toujours au téléphone. Donc
et vraiment, cette vidéo est vraiment à partager largement, parce qu'elle parle beaucoup aux jeunes, et d'ailleurs il suffit de regarder toutes leurs remarques, toutes leurs appréciations pour voir que ça leur parle énormément.
On espère que ça va sauver des vies, autant celles qui sont dans la voiture que celles qui seront sur la route ou les trottoirs. On vous embrasse, merci beaucoup Bernadette.
Merci beaucoup, merci à vous.
Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, Bernadette Moreau, déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroute. Allez, à suivre, et pour conclure, ça roule. Eh bien, nous allons tout simplement avoir notre échange avec Pierre. Enfin, vous, 0826 300 300.
Sud Radio Sarroul, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et nous continuons évidemment, et nous allons conclure notre rendez-vous avec ce moment que vous aimez bien. Venez échanger avec Pierre Chasseret, qui met bien sûr toujours sa casquette de DG de 40 millions d'automobilistes, avec une particularité pour nos échanges en amont des élections présidentielles. Si vous deviez rencontrer le président de la République ou la présidente future de la République, que lui diriez-vous, que lui proposeriez-vous de changer pour la politique routière? On accueille tout de suite Jean-Michel. Salut Jean-Michel.
Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, ce que je dirais, moi, au président, d'ores et déjà, c'est un scandale, les taxes qui pèsent sur l'automobile. Ça reste quand même la quatrième rentrée fiscale de l'État. Mais il faudrait un peu nous respecter. Or, ce n'est pas le cas. Entre les taxes, les radars et tout le reste, l'état des routes, je vous en passe, c'est des meilleurs. On est vraiment pris pour des rien du tout. Moi, je crois qu'il faut que les automobilistes ils prennent conscience de cette situation. Il va y avoir une élection présidentielle. Eh ben, qu'ils votent pour ceux qui n'ont jamais été au pouvoir. Voilà. Quel côté qu'il va, et, attention, je ne donne pas de conseils. Mais au moins, donner une bonne leçon, parce qu'il faut s'arrêter. Il faut que ça s'arrête. Ça ne peut pas continuer comme ça, c'est une honte. On nous a habitués à nous pomper sans arrêt, et ça va de pire en pire. Mais les gens ne se réveillent pas. L'automobile, ce n'est pas un luxe aujourd'hui. Ce n'est pas un plaisir, ce n'est pas un loisir, c'est une obligation.
Ouais, Jean-Michel, je suis totalement d'accord avec vous. Alors, je révèle une petite étude. Hein. On a un Français sur deux qui va prendre en considération de manière très forte les mesures proposées par les candidats en faveur ou contre les automobilistes dans son choix électoral. La difficulté, Jean-Michel, c'est qu'aujourd'hui, on a, quand on vote pour un président, on ne vote pas que pour sa position sur la voiture, bien évidemment. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec sans doute une diversité de candidats qui font que sur l'échiquier, alors j'aime pas parler d'extrême, moi j'aime bien parler de parti, mais au moins on verra de qui je parle comme ça, où ce sont, où c'est du côté de l'extrême droite qu'on trouve le plus de mesures en faveur des automobilistes, du côté de l'extrême gauche et des écologistes où on trouve plein de trucs contre les automobilistes, je dresse l'échiquier, hein. Et du côté du centre et des partis de gauche gentille et de droite gentille, et ben c'est mou en faveur ou contre les automobilistes. C'est-à-dire que prenons l'exemple de Valérie Pécresse, je ne l'ai pas entendu parler de baisse de taxes sur le carburant, du côté de Macron non plus, du côté d'Anne Hidalgo, oui. Et encore, j'ai découvert il y a très peu de temps que c'était que de manière temporaire, donc voilà, ça m'apprendra à croire au Père Noël. Et puis vous, sur les zones à faible émission, vous apercevez pareil que de plus en plus de candidats, là ça touche toute la droite, j'ai entendu Xavier Bertrand prendre position très forte contre les zones à faible émission. Alors, il a utilisé une expression que je connais bien parce qu'il m'a piqué la mienne, il a dit que si, les zones à faible émission c'était les gilets jaunes puissance 10 qui se préparaient, donc je connais bien la formulation.
Je me souviens que tu l'avais même dit il y a quelques semaines
voilà,
déjà.
Plusieurs reprises, non mais c'est bien, ça veut dire que les idées de 40 millions d'automobilistes sont entendues. Donc Jean-Michel, je suis totalement d'accord avec vous sur la nécessité que chaque Français prenne bien en considération sa mobilité, parce que oui, c'est même plus que la quatrième source d'imposition en France. Quand vous regardez les taxes sur les carburants, cette année, on va approcher les 50 milliards d'euros. L'impôt sur le revenu, c'est 80 milliards d'euros. On n'est plus très loin, hein. C'est quasiment kiff-kiff. Donc, moi, j'appelle tous ceux qui m'écoutent à réfléchir en tant qu'automobiliste aussi, je ne donne pas de consigne de vote, aucune, mais en prenant bien en considération le fait que, par exemple, sur les zones à faible émission, c'est le gouvernement Hollande et Macron. Bon, ben point, c'est comme ça, c'est factuel. Et ceux qui sont pour, eh ben, ils peuvent voter pour, ça ne me gêne pas. Mais il faut bien que chacun prenne en compte le positionnement aussi sur la mobilité, parce que la mobilité, c'est le matin quand on va au boulot, quand on va chercher les gosses, quand on rentre du travail, quand on part en vacances, et on oublie ce sujet parce que les médias oublient ce sujet. Ils nous parlent de la sécurité, de machin, de trucs, mais ils ne nous parlent jamais de la mobilité. Moi, Jean-Michel, je déplore ça. J'ai pas réussi, cette année encore, en pleine présidentielle, à faire remonter les sujets automobilistes très haut dans les médias. Heureusement, sur Sud Radio, oui.
Oui, c'est vrai que c'est une des rares radios qui en parle, hein, parce que pour le reste, ils nous endorment à la télé avec la sécurité, avec ci, avec là, mais on ne parle jamais de la nécessité, de la contrainte, du besoin essentiel d'avoir un véhicule pour se déplacer.
Mais peut-être c'est parce qu'on parle vrai, hein, sur Sud Radio. Ouais,
84% des Français, étude CSA, 40 millions d'automobilistes, considèrent que leur voiture est absolument essentielle dans leur déplacement au quotidien.
J'en fais partie.
84%. Mais évidemment. Ben oui. Évidemment. Tiens, regarde mon exemple. Moi, en ce moment, demain, il y a mes enfants qui vont à l'école, qui partent à l'école, qui reviennent de l'école. Il faut bien quelqu'un pour les emmener. Le collège, il est à 8 km. On fait comment ? On y va comment ? En vélo cargo ? C'est n'importe quoi. Quand je vais avoir mon petit qui va aller à la maternelle, on va faire quoi ? On l'amène comment ? En trottinette électrique ? Arrêtons de raconter des balivernes. La France des régions, j'ai une pensée pour Jean-Pierre Pernaut encore une fois, parce que je pense toujours à son magazine Au cœur des régions, mais la France des régions qui voit les mesures parisianistes leur tomber dessus, et j'ai rien contre les Parisiens, hein, j'en fais partie, je suis né dans le coin en région parisienne, eh bien je veux que ceux qui nous dirigent vous entendent, Jean-Michel, la France des régions, elle en a marre, elle a besoin de son auto, elle en a marre d'être tondue comme un mouton.
Exactement, bon ben merci beaucoup Jean-Michel d'être venu avec nous pour échanger en ce dimanche soir avec Pierre.
Oui, eh ben écoutez, je vous remercie également et bonne fin de week-end.
Eh ben vous aussi, on vous embrasse très très fort. Vous êtes où dans les Bouches-du-Rhône, Jean-Michel ?
Eh bien écoutez, je suis à Roquefort-la-Bédoule, un petit village où on n'est pas embêté pour les problèmes de ZFE, mais c'est en train de se répartir sur Marseille et Aix.
Il y a 2-3 jolis vignerons là-bas à Roquefort-la-Bédoule, il y a 2-3 domaines. Hein ?
C'est exact, c'est à côté de Cassis et le vin est excellent.
Je connais bien, je vous embrasse fort Jean-Michel.
La zone à faible émission du côté de Aix-Marseille.
Ça va faire mal. Allez, merci à tous d'avoir suivi Ça roule sur Sud Radio en ce dimanche soir. On aura le bonheur de vous retrouver la semaine prochaine. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée, aussi simple que ça.
Et une bonne fin de week-end, parce que c'est encore le week-end.
Et profitez bien et soyez prudents si vous roulez actuellement.